Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans et un accès très progressif aux réseaux sociaux. Les experts missionnés par Emmanuel Macron pour analyser l'usage des écrans appellent parents et professionnels de l'éducation à préserver davantage les enfants. Nous nous pencherons sur ce rapport avec Adrien Toffolet. Les centres de rétention administrative sont détournés de leur finalité, s'inquiète la CIMADE. Selon l'association, les CRA deviennent de plus en plus des lieux d'enfermement. Anne Fauquemberg s'est penchée sur ce dossier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à redoubler d'efforts pour accroître l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Nous ferons justement un état des lieux avec Jérémy Lange. Et puis nous verrons que les mobilisations étudiantes pro-Gaza continuent en France et pas seulement à Paris. Il y en a à Lyon, Strasbourg, Rennes ou encore Grenoble. Insomnie, surpoids, myopie, ce sont quelques-uns des effets nocifs des écrans sur les enfants. Effets négatifs, listés dans un rapport commandité par Emmanuel Macron et remis aujourd'hui au chef de l'État. Les experts pointent les risques engendrés par la fréquentation des réseaux sociaux et appellent les parents à la vigilance, leur donnant un certain nombre de préconisations pour tenter de reprendre le contrôle. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
La commission conseille d'interdire les écrans avant 3 ans et les smartphones avant 11 ans.
Oui, ce sont des conseils basés sur une logique scientifique progressive. Jusqu'à 7-8 ans par exemple, l'œil de l'enfant est plus vulnérable à la toxicité de la lumière bleue produite par les écrans de téléphone et les tablettes. Les experts proposent donc un repère aux parents adapté aux conséquences et risques sur le développement des enfants. Cela donne les limitations suivantes. Aucun écran avant 3 ans, fortement limité et avec parents entre 3 et 6 ans. Aucun téléphone mobile avant 11 ans. Mobile sans internet jusqu'à 13 ans. Réseaux sociaux éthiques sans violence et pornographie comme Mastodon et Blue Sky à partir de 15 ans. TikTok, Instagram et autres réservés aux adultes. Il y a aussi des recommandations destinées au pouvoir public. Interdiction des écrans dans les crèches et écoles maternelles et actions renforcées auprès des assistantes maternelles et des personnels dans le périscolaire. Et puis, des recommandations qui concernent les diffuseurs de contenu qui mettent en place des services prédateurs, écrivent les experts. Le rapport préconise par exemple l'interdiction des mécanismes de fil déroulement infini et de lancement automatique et sans fin de vidéos que l'on retrouve sur des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram.
Et honnêtement, Adrien, est-ce que ces préconisations ont de bonnes chances d'être appliquées ?
Alors, leur mise en œuvre n'est pas toujours simple. Du côté du gouvernement français et de la Commission européenne, un bras de fer a déjà été engagé avec les plateformes pour contrôler la diffusion des contenus violents et pornographiques sous peine de grosses sanctions financières. Imposer aux médias sociaux un droit au paramétrage pour les utilisateurs, par exemple, comme préconisé par la Commission, pourrait faire l'objet d'une législation si le politique s'en empare. Mais le principal problème est que la majorité des recommandations relèvent de la sphère privée. Le rapport se présente donc comme un guide des bonnes pratiques à l'attention des parents qui sont souvent eux-mêmes déjà victimes des écrans qui s'imposent partout dans nos vies. Le contrôle parental a ses limites. C'est pourquoi les experts appellent à ce que des solutions de sécurisation des appareils et des utilisateurs soient développés rapidement.
Et à l'heure actuelle, ces solutions sont encore imparfaites d'un point de vue technologique, car facilement contournables par les plus malins. On citera par exemple celle du contrôle de l'âge des utilisateurs, souvent mis en avant pour limiter l'accès aux réseaux sociaux des mineurs et leur interdire totalement l'accès aux sites pornographiques. Mais le besoin d'une réponse est urgent, on l'a entendu, et les progrès en la matière sont rapides. C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés insiste sur la nécessité d'adopter les solutions d'ores et déjà disponibles. On écoute la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis.
Il y a des solutions à court terme, des solutions qui ne sont pas parfaites, parce qu'il peut y avoir des trous dans la raquette, entre guillemets. Par exemple, l'utilisation de la carte bancaire pour une transaction à 0 euro ou à juste 1 euro pour éviter que les plus jeunes, en tout cas des enfants, aillent sur les sites pornographiques, parce que c'est pas très simple pour un enfant de 12 ans de se procurer quand même une carte bancaire. Il y a aussi des systèmes dits d'estimation d'âge du visage qui sont pas parfaits si on a 17 ans ou 19 ans pour savoir si vous en avez 17 ou 19, mais qui sait faire la différence entre un enfant de 14 ans et un jeune de 25 ans. Et donc la CNIL dit, avec un certain nombre de précautions, des conditions de sécurité, utilisons dès maintenant la carte bancaire ou ces systèmes via les traits du visage. Et parallèlement, ce que nous préconisons, c'est une solution dite de double anonymat, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de confiance qui vous donne la preuve que vous avez plus de 18 ans, et c'est juste cette preuve que vous transmettez au site pornographique auquel vous vous contactez, sans qu'il sache vous identifier. Essayons d'aller vers une solution qui soit techniquement plus fiable, plus robuste, en attendant un portefeuille européen d'identité numérique dans quelques années où on pourra juste sélectionner quelques attributs et par exemple l'âge sans qu'on sache par ailleurs comment vous vous appelez.
Marie-Laure Denis, jointe par Adrien Taufollet. Sur la question des écrans, l'éducation nationale doit balayer devant sa porte. C'est l'avis de l'ancien ministre de l'Éducation et Premier ministre Gabriel Attal. À la lecture du rapport remis aujourd'hui, il estime que certaines politiques vont devoir être repensées. « Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans parce que je suis pris pour cible. » Ce sont les mots de Nicolas Bourrez dans une vidéo postée hier sur le réseau social X. Le directeur de l'école André Chénier de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, dénonce les menaces qu'il a reçues de la part de certains parents d'élèves en raison de son projet d'instaurer l'uniforme dans son établissement, Talita Thiro.
Nicolas Bourrez a porté plainte la semaine dernière. Sous le choc, et il ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va retourner à l'école André Chénier.
C'est impressionnant, en mettant une cible dans le dos d'un directeur d'école, ils mettent en danger toute l'école.
Sur des tracts, Nicolas Bourrez est accusé d'islamophobie. Sartoch Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, en a également reçu.
Indiqué de manière affirmative, l'obsession vestimentaire de M. Bourrez cachait une obsession anti-musulman. C'est extrêmement grave comme accusation.
Selon le maire, 70% des parents sont d'accord pour le port de l'uniforme à l'école. Pourtant, une minorité n'hésite pas à faire entendre leur mécontentement.
On a quelques parents qui sont très virulents, très agressifs. Des parents se font de plus en plus violents. On a une société où on permet à chacun d'avoir un avis sur tout, c'est entendable, mais on ne devrait pas permettre à chacun de s'immiscer dans le travail de n'importe qui.
La coéducation permet pourtant cela. C'est l'idée d'une participation égal, sans hiérarchie entre les parents et les enseignants. Les parents ont donc l'impression d'avoir le plein pouvoir, selon Françoise Lantome, sociologue dans le milieu scolaire.
Les parents ont tendance à se comporter en consommateurs d'école et à attendre de l'école qu'elle réponde uniquement aux besoins de leur propre enfant parce qu'ils craignent que leur enfant soit maltraité. Les parents sont plus dans une relation de négociation plutôt que de respect ou de soumission à l'institution.
À Neuilly-sur-Marne, 3 écoles instaureront l'uniforme à la rentrée prochaine.
Talita Thiro. Sauver le climat et faire face à l'urgence sociale, c'est l'ambition affichée par la tête de liste écologiste aux européennes, Marie Toussaint. Elle a présenté aujourd'hui son programme intitulé « Pour un État-providence écologique européen ». Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Pour Marie Toussaint, il faut changer de modèle économique et pour financer la transition écologique, les écologistes défendent la création d'une fiscalité européenne.
Oui, avec un objectif, atteindre 100% d'énergie renouvelable dès 2040. La tête de liste Marie Toussaint détaille ses nouvelles sources de financement.
Donc ce que nous proposons, c'est de faire porter cette fiscalité sur les activités qui font du mal soit aux êtres humains, soit à la planète. Ça veut dire enlever les exonérations fiscales, par exemple sur le kérosène pour l'aviation, taxer les transactions financières. Ça veut aussi dire mettre en place un ISF climatique et aller chercher de l'argent chez les 0,5% les plus riches des pays d'Europe. Parce qu'évidemment, c'est pas sur ceux qui conduisent une Twingo pour aller au boulot qu'il faut aller chercher cet argent.
Son programme propose notamment la création d'un fonds européen de souveraineté écologique. Son but serait de prendre le contrôle des géants des énergies fossiles pour les contraindre à la transition écologique. Une transition qui coûterait 260 milliards d'euros par an, financée aussi via un nouvel emprunt européen, selon les écologistes. Alors qu'en parallèle, il propose une baisse de la TVA sur certains produits via une TVA verte, souligne Marie Toussaint.
Nous proposons de baisser le prix des produits qui permettent de recréer de l'emploi en Europe, qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour la santé. En fait, c'est possible. Une TVA à taux réduit, voire nul, sur la réparation de votre machine à laver, par exemple, parce que ça coûte plus cher aujourd'hui de réparer que d'en acheter une nouvelle. Sur les jeans, il faut que ce soit le même prix, voire moins cher, d'acheter un jean produit en Europe, en coton, sans produits toxiques, ou encore sur les couches. Aujourd'hui, le budget mensuel d'un ménage pour des couches avec un seul enfant, c'est environ 50 euros. Si on veut des couches sans produits toxiques pour les fesses de son bébé, c'est 15 à 20 euros de plus. Ça peut changer avec cette TVA verte et circulaire.
Le programme prône aussi l'instauration, la mise en place d'un fonds de transition pour l'agriculture en réorientant l'attribution des aides de la PAC, la politique agricole commune, pour favoriser les pratiques écologiques plutôt qu'en fonction du nombre d'hectares des exploitations.
Sophie Delpont, à droite, les Républicains ont désigné leur candidat. Mais cette liste ne fait pas l'unanimité. Elle donne la part belle à des eurodéputés sortants comme Nadine Morano ou Brice Hortefeux et manque aux yeux de certains de renouvellement. La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. C'est ce qui est prévu par la loi. Aujourd'hui, les 5 associations qui interviennent dans les centres de rétention administrative pour assurer un accompagnement et aider les personnes enfermées à exercer leurs droits ont publié leur rapport annuel. Elles notent qu'en 2023, près de 50 000 personnes ont été placées en CRA contre 43 500 en 2022 et elles constatent que la durée moyenne des placements en centre de rétention augmente. Elle était de 28 jours et demi l'an passé, c'est-à-dire déjà une semaine de plus que l'année précédente. Or, les expulsions depuis ces centres ont baissé de 15%. Selon les associations Elfokenberg, les CRA sont détournés de leurs fonctions.
Depuis plus d'un an, la sociologie des personnes placées en CRA a évolué. Le gouvernement a décidé de réserver les près de 2000 places de ces structures aux personnes considérées comme dangereuses par l'administration. La perspective de l'éloignement semble devenue secondaire, selon Justine Girard. Elle est la porte-parole de la CIMAD, qui intervient dans 8 CRA sur 24.
Les CRA sont détournés de leur finalité et en fait deviennent des lieux où on souhaite y enfermer les personnes pour les mettre à l'écart de la société, où on souhaite mettre à l'écart les personnes qui sont considérées comme dangereuses, qu'on puisse les expulser ou non, ce qui n'est pas du tout la finalité des centres de rétention administrative.
Conséquence, de plus en plus de personnes placées en CRA enchaînent les périodes d'enfermement, poursuit Justine Girard.
Elles vont être enfermées en prison. À leur sortie de prison, elles peuvent être assignées à résidence ou placées directement dans un centre de rétention administrative pour être expulsées. À la sortie du centre de rétention, elles peuvent être assignées à résidence pour être de nouveau replacées au centre de rétention. Et donc, on constate comme ça que des personnes sont privées de liberté de façon assez continue, sans prendre en compte leur situation individuelle.
Qu'elles aient été condamnées pénalement ou non, bon nombre de personnes présentent une santé psychique dégradée, à tel point qu'il est parfois difficile pour les associatifs d'avoir des discussions intelligibles afin de recueillir un consentement pour faire valoir des droits. Et donc, dans ce contexte, les violences entre personnes augmentent dans les CRA. Des violences physiques et des menaces à caractère raciste et homophobe de la part des forces de l'ordre sont également rapportées. À noter enfin qu'en 2023, 4 personnes sont décédées dans ces établissements.
Anne Fokenberg. Alors que la réponse du Hamas à un accord de trêve se fait attendre, le premier ministre israélien souffle sur les braises. Israël rentrera dans Rafah avec ou sans accord de trêve, déclare Benjamin Netanyahou. Il promet à nouveau d'en finir avec le mouvement islamiste, soupçonné de s'être retranché dans la ville palestinienne proche de la frontière égyptienne. 1,5 million de civils se sont réfugiés à Rafah et l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, se prépare au pire en même temps qu'elle lutte toujours pour sa propre survie, Jérémy Lange.
Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, l'admet. Les seules informations qu'il a sur une potentielle invasion de Rafah sont celles qu'il lit dans la presse. Reste le sentiment de ses équipes sur place et il n'est pas très bon.
Pour le moment, personne n'a demandé aux civils d'évacuer Rafah, mais le sentiment qui domine, c'est que s'il n'y a pas d'accord cette semaine, ça peut arriver à n'importe quel moment.
Seule bonne nouvelle, l'aide alimentaire qui parvient un peu plus au nord de Gaza, même si elle reste largement insuffisante et même si Israël continue d'entraver l'action des humanitaires.
Israël refuse systématiquement nos demandes de convoi vers le nord de Gaza. Dès que l'un d'eux est autorisé, on doit se plier à des règles fastidieuses. Il faut décharger et charger plusieurs fois les camions sur le trajet. Les horaires des checkpoints changent tous les jours aussi et ça nous complique encore un peu plus la tâche.
Autre inquiétude, l'argent. Il manque cruellement depuis que les États-Unis ont décidé de suspendre leur financement sur fond d'accusations d'implication d'une vingtaine d'employés dans l'attaque du 7 octobre. Des cas individuels, répond Philippe Lazzarini, ils font toujours l'objet d'une enquête. La plupart des pays donateurs ont, cela dit, repris leur versement à l'UNRWA. De quoi assurer les actions de l'agence jusqu'en juin, mais pas plus.
Jérémy Lange, correspondant de RFI et France Culture à Genève. Comme aux États-Unis, les mobilisations pro-palestiniennes se poursuivent en France. Il y en aura encore jeudi dans les Sciences Po, partout dans le pays, selon l'Union étudiante. Des blocages sont prévus dans les IEP de Saint-Étienne, Rennes, Strasbourg et Menton. Et des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans différentes villes. À Grenoble, ils étaient plus d'une centaine sur le campus de l'université Grenoble-Alpes. D'abord rassemblés devant Sciences Po, ils se sont ensuite assis assis pendant une heure sur les voies du tram. Parmi leurs revendications, un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi la fin du partenariat entre l'université de Grenoble et l'université israélienne Ben Gurion, et puis l'autorisation de la conférence avec l'insoumise Rima Hassan, attendue à Grenoble le 23 mai prochain. Julien Balidas a suivi cette action pacifique en plein cœur du campus.
Accompagné de slogans pour défendre la cause palestinienne, la centaine d'étudiants déploie un grand drapeau sur les voies du tram. Depuis des mois, le collectif UGA pour Gaza se mobilise à Grenoble, notamment par la voix de Yasmine Chema.
Partout en Europe et ici à Grenoble, on se mobilise. Il est hors de question de rester silencieux.
Assis sur les voies du tram, il n'y a pas que des étudiants.
Ça me rappelle quand j'étais jeune, US Go Home, paix au Vietnam, c'était il y a une bonne cinquantaine d'années.
Gérard est membre de l'association France-Palestine Solidarité.
Il y a un slogan, moi, personnellement, que j'aime bien, c'est « Sanctions contre Israël », parce que c'est surtout sur des éléments comme ça sur lesquels on peut avoir une influence.
Ce rassemblement, c'est une réussite, estime Mathéo. Il fait partie du syndicat UNEF.
Ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu de gros rassemblements ou d'action sur le campus. On sait qu'en fait il y a énormément de monde que ça révolte en fait ce qui se passe, et donc le constat qu'on fait c'est que si ça prend aussi en France et aux États-Unis, c'est parce que en fait c'est les pays qui sont les principaux aussi soutiens d'Israël, que ce soit financier, pour l'armement, etc. Et donc, en fait c'est logique que la jeunesse de ces pays-là en fait se saisisse aussi de cette situation.
Les étudiants grenoblois seront de nouveau dans la rue demain dans le cortège du 1er mai. Les drapeaux palestiniens seront de sortie.
Julien Balidas de France Bleu Isère. Réunis à Turin en Italie, les pays du G7 s'accordent sur la suppression progressive des centrales électriques au charbon. La réunion de Turin était la première grande réunion politique sur le climat depuis la COP28 organisée en décembre à Dubaï, où le monde s'est engagé à renoncer progressivement au gaz, au pétrole et au charbon, l'énergie fossile la plus polluante. Véronique Reberotte.
Il y a 6 mois, les signataires de l'accord final de la COP28 à Dubaï avaient appelé à une accélération des efforts visant à réduire progressivement l'utilisation du charbon dans le monde. Les pays du G7 concrétisent donc la promesse. Ils s'engagent tous à fermer leurs centrales à charbon au cours de la première moitié des années 2030, comprenez avant 2035. Le charbon, bête noire du climat, l'affaire était entendue depuis longtemps, mais de grosses puissances n'étaient pas prêtes à s'en passer. À Turin, le Japon s'est finalement rallié à la majorité. Le Japon était le seul pays du G7 à ne pas avoir de plan de sortie du charbon et à l'utiliser encore fortement. Un tiers de l'électricité japonaise provient de cette énergie fossile, la plus polluante de toutes. Au G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni et Japon ont pour la première fois énoncé collectivement une date de fermeture de leurs centrales. Mais à chacun son échéance, certaines sont déjà connues, 2027 pour la France, ou plutôt en 2024 pour le Royaume-Uni, ou plus tard en 2035 pour les États-Unis. Les industries fonctionnant au charbon mais ayant des dispositifs de captage et de stockage de CO2 pourront-elles continuer leur activité au-delà de 2035.
Les pays du G7 disent aussi aspirer à réduire la production mondiale de plastique. L'Agence européenne des médicaments demande une mise à jour des vaccins contre le Covid-19. Cela permettrait de cibler le nouveau variant JN1 qui est désormais le plus répandu dans le monde. Le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, mais le virus continue de circuler et selon l'OMS, il a entraîné quelques 4500 décès le mois dernier. On se souvient que c'est en Chine que le virus du Covid était apparu pour la première fois début 2020. Et 4 ans plus tard, le sujet reste très sensible dans le pays. Un chercheur chinois qui avait été le premier à publier un séquençage du virus vient d'être évincé de son laboratoire. Et depuis ce week-end, il organise un sit-in de protestation à Shanghai. Le récit de Sébastien Berriot.
Zhang Yongzhen vient de publier les photos sur le réseau social Weibo. On peut y voir le virologue assis sur un carton devant son laboratoire. Le chercheur dort désormais sur place avec des étudiants à ses côtés qui se relaient pour le soutenir. Zhang Yongzhen veut obtenir le droit de revenir sur son lieu de travail. Ce week-end, l'accès lui a été interdit par des gardes, officiellement pour des raisons de sécurité, mais ce n'est pas la première fois que le scientifique de l'université Fudan de Shanghai est empêché de travailler. Depuis 2020, Plusieurs mesures ont déjà été prises pour tenter de paralyser ces recherches. Les autorités n'ont pas apprécié le geste du virologue qui ose, le 11 janvier 2020, rendre public un premier séquençage du virus du Covid sans l'accord du gouvernement. L'épidémie est désormais terminée, mais ce nouvel incident montre que le régime communiste cherche toujours à contrôler l'information sur les origines du Covid et une éventuelle responsabilité de la Chine dans son apparition. Le virologue, lui, ne baisse pas les bras. « Je n'abandonnerai pas, je veux la vérité et la science », écrit-il sur Weibo, avant de lancer ce sitting de protestation particulièrement osé en Chine.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture en Chine. Météo France prévoit demain une journée pluvieuse et des orages parfois violents éclateront en fin d'après-midi et en soirée sur la Bourgogne-Franche-Comté. L'Alsace, elle, conservera un temps ensoleillé. Les températures minimales iront de 8 à 14 degrés, les maximales de 13 dans le sud-ouest à 27 en Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.